Chapitre 58. L'anneau d'or de Roland. 6h01. Quelque part dans l'agglomération rouennaise. L'homme assis dans le canapé blanc ne parvenait pas à se concentrer sur l'écran plasma. Tout se jouait en ce moment même, sur les rives de la Seine, autour de la bouille, et lui restait là, loin, inutile. Bien entendu, cette histoire de trésor au fond de la Seine sentait le piège, le coup monté par la police. Un coup bien monté, d'ailleurs. Ils avaient mis les moyens. Il s'agissait d'un coup monté pour attirer Nordrak. Le matelot norvégien allait se jeter dans la gueule du loup. Il n'était pas bien malin. Il en avait fait ce qu'il avait voulu depuis 3 jours. Avec de la chance, il allait même se faire abattre. C'était possible. La police était sans doute sur les dents. Tout le monde prenait Morten Nordrak pour l'ennemi public numéro 1. Quelle ironie! Un matelot qui n'avait jamais porté d'armes sur lui, qui avait juste un passé de voleur à la tire en Norvège lorsqu'il était mineur, avant de s'engager dans la marine. Pour une fois, la police s'était montrée habile. Ils allaient prendre Morten Nordrak. Nordrak était un coupable idéal. Il porterait le chapeau pour les autres crimes. Si, par chance, il était abattu, tout serait parfait. Le Norvégien méritait bien de subir la malédiction, autant que les 3 autres. L'armada prenait fin. Dans quelques heures, tout pourrait recommencer comme avant, mieux qu'avant même. L'homme regarda à nouveau sa montre. Cette histoire de trésor trouvée au fond de la Seine, à la bouille, l'obsédait. Bien entendu, c'était du bluff. Il n'y avait rien dans les carnets de Ramphastos. Il voulait s'en convaincre, mais ne pouvait chasser le doute. Et si c'était tout de même la vérité? Si la police ne bluffait pas? Si les carnets de Ramphastos avaient vraiment livré des secrets qu'il ne connaissait pas? L'homme essaya de se rassurer. Marine était sur place. Elle, personne ne la soupçonnerait. Qui pouvait la reconnaître? Ni Mungarai, ni Sokolov, ni Ramphastos. Elle devait l'appeler dès qu'elle aurait du neuf. Ils avaient adopté le meilleur plan. Marine s'assurait sur place que cette histoire de trésor était bien une invention de la police et lui restait dans l'ombre, afin qu'on ne le reconnaisse pas. Sa présence à la bouille aurait éveillé les soupçons. Il regarda encore sa montre. Que l'attente allait être longue. L'étui d'un DVD traînait encore sur la table du salon. On pouvait lire « Libertalia, 5 juillet 2003 ». Il s'obligea à se concentrer sur le film, sur le grand écran encastré dans le mur. On découvrait le plan fixe d'une caméra de surveillance. On reconnaissait le décor intérieur du Libertalia. Il devait être assez tard, car il n'y avait plus que 5 clients. À une table étaient assis 4 marins. On identifiait Carlos Ressus Aquileras Mungarai, Pascas Upanji, Sergei Sokolov, Morten Nordrak. Ils étaient très jeunes, à peine 18 ans. Tous les 4 écoutaient comme des dévots écoutant les paroles d'un prêtre un 5e marin, beaucoup plus vieux qu'eux, Ramphastos. L'homme sur le canapé siffla entre ses dents. Dire que tout a commencé lors de cette soirée maudite. Ramphastos parlait à voix très haute, en anglais. Malgré la mauvaise qualité du film, on entendait distinctement ses paroles. Aucun autre marin ne s'exprimait. Tous semblaient écouter la voix d'un prophète. « Ce fut le début de la fin !» criait Ramphastos. « Le début de la fin de la piraterie, ici, dans la vallée de la Seine. Le jour où Roland accepta d'arrêter les pillages contre une couronne et une terre, la Normandie. Roland était un capitaine de pirates, un seigneur, un jarl, comme on dit dans les contrées du Nord. Roland est devenu le premier jarl de Normandie. Mais les Vikings restaient un peuple de pirates, craints dans le monde entier, même des empires. Savez-vous ce que fit alors Roland ? Aucun des 4 matelots ne répondit. Par contre, l'un d'eux, Mungarai, recommanda à boire pour Ramphastos. Ce n'était manifestement pas le premier verre. Comme une Scheherazade ivrogne, son verre ne serait définitivement vide que lorsqu'il aurait raconté sa dernière histoire. Certain d'être abreuvé, Ramphastos continua.
Roland suspendit à un arbre pendant 3 ans dans la forêt de Roumar un anneau d'or, sans aucune surveillance, avec la simple interdiction à quiconque de le voler. Vous rendez-vous compte, le jarl, l'ancien pilleur, défiait ainsi tous les pirates vikings.
Personne ne vola l'anneau, demanda enfin le jeune Morton Nordrak.
« Selon la seule histoire officielle,
répondit mystérieusement Ramphastos,
celle des mémoires de Dudon de Saint-Quentin, l'anneau resta suspendu 3 ans dans la forêt, près d'une mare. Le nom du lieu emporte encore le souvenir, la mare de Rollon, Roumare. Pendant 3 ans, personne n'osa le voler. Les Vikings n'étaient donc plus un peuple de pirates. Rollon, le Jarl, avait imposé son autorité. Il avait gagné. Il fut à la fois le dernier Jarl et le premier duc de Normandie.
Ramphastos laissa un silence avant de lancer.
Mais la véritable histoire est différente.
Les 4 marins étaient suspendus aux lèvres de Ramphastos. Il prit le temps de vider sa bière et continua.
Ce que nul n'a jamais su, c'est qu'un jeune viking osa défier le Jarl. Il vola l'anneau, une nuit sans étoiles. Dès le lendemain, Rollon remplaça l'anneau volé par un autre, identique. Personne ne sut jamais rien de cette profanation. Mais Rollon fit également secrètement rechercher le voleur. Après 3 mois de poursuite, le jeune viking fut pris et torturé, un peu au-dessus de l'île Bonne. Rollon voulait savoir où il avait caché son anneau d'or, s'il existait encore des vikings pirates en vallée de Seine, où ces vikings dissimulaient leur butin. Le jeune viking se laissa torturer pendant 11 jours, sans rien révéler. Lorsque Rollon le fit brûler vif dans la forêt de Roumare, à l'endroit même où il avait volé l'anneau d'or, le jeune viking lança sa terrible malédiction au Jarl de Normandie. Tout individu qui chercherait à découvrir le butin des pirates de la vallée de la Seine serait maudit. Jamais aucun Jarl, roi ou empereur, n'empêcherait les pirates, hommes libres, de régner sur le monde et de défier toutes les formes d'autorité. La cache, le butin des pirates de la vallée de la Seine, continuerait à s'accumuler au fil des siècles, protégé à jamais par la malédiction de quiconque s'en approcherait pour le piller et non pour l'enrichir.
L'homme se leva, mit sur pause le film et éteignit la télévision. Il avait visionné ce film des dizaines de fois depuis 5 ans. Ses 4 jeunes matelots avaient cru chaque parole de ce vieil ivrogne. Au cours des siècles, combien de milliers de marins avaient été ainsi enrôlés un soir dans une taverne par un conteur habile et des litres de bière? Combien de jeunes garçons crédules s'étaient retrouvés embarqués sur des tombeaux flottants pour avoir écouté les récits de voyage d'un vieux loup de mer? Ce soir-là, les 4 matelots qui s'étaient retrouvés par hasard dans ce bar, face à Ramphastos, avaient pris au pied de la lettre toutes les révélations du vieux marin. Ils avaient cru à ses récits, à leur chance, à leur fortune. La destinée avait placé devant eux cet ivrogne trop bavard. Pendant les heures qui avaient suivi, ils n'avaient dû penser qu'à cela, au butin, au fameux butin accumulé au cours des siècles par les pirates de la vallée de la Seine, protégés par la malédiction. Avant de se séparer, quelques jours plus tard, les 4 matelots avaient sans doute juré entre eux de garder le secret, s'étaient tatoués mutuellement pour signer le pacte, la chasse partie, s'étaient donné 5 ans pour rechercher les indices et avaient pris rendez-vous en 2008 pour se partager le butin en 4 parts égales. Pauvres fous. Avaient-ils seulement écouté Ramphastos? La malédiction. Seul découvrira le butin celui qui cherche à le protéger, l'enrichir, pas le piller. Croyait-il réussir à trouver en une seule soirée ce que lui cherchait depuis plus de 30 ans? Croyait-il être digne en quelques jours de cette quête à laquelle il se préparait depuis si longtemps? L'homme regarda encore sa montre. Pourquoi Marine ne l'appelait-elle pas? S'était-il passé quelque chose? Non, il était encore trop tôt. Elle allait appeler. Il fallait juste qu'il soit patient. Il se leva et alla vérifier si le téléphone était bien raccroché. Il l'était. Il devait lutter contre cette envie irrésistible de se rendre sur place, d'aller voir par lui-même. Il savait qu'il était inutile de prendre des risques maintenant. Marine allait appeler.